Chers amis, bonjour. Je suis toujours Axel Benamram. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'entretien particulier. Nouvelle émission, alors je vais vous mettre dans la confidence qui commence par un fou rire. Alors j'ai beaucoup de mal à me reprendre. Merci Robert Grossman de m'avoir fait rire parce que maintenant c'est très difficile pour moi de commencer cette émission.
Néanmoins, parce que j'ai dit que vous aviez un visage d'effigie romaine.
C'est pas très gentil de continuer, mais je vais essayer d'y arriver. Donc je suis ravie de vous retrouver après cette longue période où nous n'étions pas ensemble. Période de fête, période de Noël, période de Hanouka, en tout cas, voilà, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons comme invité Robert Grossman. Robert Grossman, vous étiez déjà venu une première fois dans cette émission et vous étiez un petit peu le parrain de cette émission puisque c'était la toute première. Je suis ravie en tout cas de vous accueillir une deuxième fois. Bonjour Robert Grossman.
Bonjour Axel.
Et je suis ravie de vous accueillir d'autant plus que l'actualité aujourd'hui est d'autant plus brûlante et c'est pour en parler un petit peu avec vous et dans ce contexte un peu exceptionnel que vous avez accepté très gentiment de nous rejoindre une deuxième fois. Donc, vous retrouverez toujours nos cinq rubriques. Le portrait de la semaine, un petit peu plus court que d'habitude parce que qui ne connaît pas Robert Grossman, en plus vous étiez déjà venu. L'actualité de la semaine, commentée par notre invité, le pour ou contre, la question qui tue. Alors, monsieur Grossman, là, cette fois, vous en aurez droit à une deuxième puisque vous aviez déjà eu la première.
Je suis déjà mort.
Vous êtes déjà mort. Et l'interview décalée. Alors, est-ce que vous êtes prêt une nouvelle fois, Robert Grossman, à jouer le jeu de cet entretien particulier avec moi aujourd'hui.
Alors je vous remercie beaucoup Axel de m'inviter à nouveau. Je crois effectivement que l'actualité le commande un peu, mais je ne vous cacherai pas que je redoute vos questions, que je ne connais absolument pas. Et c'est toujours un exercice d'improvisation très difficile auquel vous nous livrez. Et votre charme n'est pas pour peu la manière dont nous allons être traités tout à l'heure.
Mais cessez de mentir Robert Grossman, vous adorez l'improvisation. Allez, c'est parti pour l'actualité de la semaine. Et ce n'était pas l'actualité de la semaine, puisqu'on commence d'abord par votre actualité, Robert Grossman. Donc tout le monde vous connaît, on va faire court. Vous êtes l'ancien président de la CUS, vous êtes aujourd'hui président du groupe d'opposition, le groupe des démocrates à l'Assemblée nationale. J'allais dire, quel lapsus merveilleux au conseil municipal à Strasbourg. Donc on va voir un petit peu avec vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? On se pose la question, comment se passe en ce moment votre présence au sein du conseil municipal? Qu'est-ce que vous y faites exactement? Racontez-nous un petit peu.
Mais écoutez, je crois que je joue le jeu de la démocratie. J'ai été élu minoritaire, donc dans l'opposition, et je compte bien faire honneur aux électeurs qui ont voté pour nous, pour moi en particulier, et défendre les idées auxquelles je crois et auxquelles, je l'espère, croient tous les gens qui ont accepté de voter pour nous. Alors, nous sommes vigilants à ce que fait la municipalité. Nous défendons une certaine idée de Strasbourg et nous essayons de faire une opposition très constructive en n'étant pas systématiquement dans la négation, en ne niant pas systématiquement tout, mais néanmoins en proposant solutions à des problèmes qui ne sont peut-être pas les mêmes que celles qu'appliquent actuellement les responsables de la municipalité et de la communauté urbaine de Strasbourg.
Alors comment ça se passe exactement? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a deux groupes d'opposition, un mené par Fabienne Keller, l'autre mené par vous, donc il y a une scission entre vous deux, face à la municipalité actuelle. Je sais que vous n'aimez pas le mot de scission, mais on va y revenir. Donc vous avez deux groupes d'opposition avec la municipalité actuelle. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que à chaque fois que la municipalité propose une mesure, est-ce que vous venez comme ça avec vos drapeaux respectifs en disant « halte là !» ça n'est pas possible pour X raisons.
Bon, il faut revenir, vous m'y contraignez un peu, à ce que vous appelez la scission ou le fait qu'il y ait deux groupes. D'abord, nous parlons et nous ne sommes pas en opposition l'un par rapport à l'autre. Notre adversaire commun, c'est la municipalité socialiste. Mais néanmoins, il y a essentiellement une différence de personnalité, de tempérament, de style, qui fait que certains collègues ont préféré travailler avec moi et d'autres ont préféré travailler avec Fabienne Keller. Nous allons dans le même sens qui consiste à mettre en place tous les éléments qui permettront à nos diverses sensibilités de retrouver les responsabilités au niveau de la ville de Strasbourg.
Vous m'obligez, Robert Grossman, à rebondir sur cette différence de tempérament. Quelle est-elle?
Je n'aimerais pas être trop précis et par conséquent être désobligeant. Mais si, à un moment précis, des collègues élus sur la liste Keller-Grossman Au moment de la mise en place de ce nouveau conseil dans notre opposition, ont préféré me rejoindre et m'ont demandé de faire un groupe, c'est qu'il doit y avoir une différence de collaboration les uns envers les autres et peut-être aussi une différence de respiration.
Une différence de respiration, très bien. Mais écoutez, on essaiera d'écouter vos pouls respectifs la prochaine fois lors du prochain conseil. Vous avez été très récemment demandé par l'Élysée. Vous avez rencontré Nicolas Sarkozy, je crois, il y a à peu près une semaine ou deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce qui est à l'origine de cette rencontre ? Pourquoi ? Pourquoi vous ? Et dans le silence un petit peu, vous avez été très discret là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Mais Nicolas Sarkozy est un ami. J'ai eu le grand bonheur de contribuer à son vrai lancement en politique, il y a assez longtemps maintenant. J'ai contribué aussi à le faire entrer dans le sérail, j'allais dire à lui apprendre un peu, à lui faire connaître le milieu dans lequel il rentrait quand il avait 20 ans. Et depuis, Nicolas Sarkozy m'a toujours été d'une grande fidélité à tous les niveaux de responsabilité qu'il a exercés. Et il tenait à me rencontrer et à bavarder amicalement avec moi. Et c'est ce qui s'est passé maintenant. J'ai eu la belle surprise d'apprendre qu'il souhaitait me voir avant la fin de l'année dernière. Un rendez-vous a été pris et je l'ai vu trois quarts d'heure et nous avons parlé ensemble de beaucoup de problèmes qui nous sont communs, de Strasbourg, de l'avenir des uns et des autres, et m'a aussi confié un peu sa vision des choses concernant des dossiers importants comme l'Europe, les futures élections européennes, où Joseph Daul sera évidemment tête de liste pour l'Est. Et voilà, il a pris un peu mon avis aussi.
Et votre avis concernant ce qui se passe à Strasbourg, vous avez eu l'occasion de lui donner très bien, mais est-ce que votre avis sur le monde, vous le lui avez donné aussi ?
Oui, nous avons parlé des difficultés qui surgissaient à l'époque et qui étaient peut-être un peu en gestation. Et puis nous avons parlé de la nécessité, effectivement, de reconstruire un courant, un mouvement fort qui puisse, dans 5 ans, être crédible aux yeux des Strasbourgeois.
Robert Grossman, je vous remercie beaucoup. Dans quelques instants, on va passer à l'actualité de la semaine. Mais juste avant, comment vous sentez-vous là tout de suite ? Est-ce que ça va bien ?
Le climat actuel de...
Vous, là tout de suite, vous, en tant qu'homme, est-ce que vous vous sentez bien ?
Mieux. Je me sens un peu mieux et je suis gonflé d'espoir pour notre ville, notre agglomération et aussi pour l'avenir. Mais vous savez, l'espoir se met en œuvre par la volonté des hommes et se met en œuvre tous les matins. Donc ce n'est pas un acquis, ça n'est pas non plus quelque chose qui viendrait comme ça d'une fatalité ou du ciel. Comme j'aime souvent à dire, les problèmes ne se règlent pas par imposition des mains. Il faut s'atteler à la tâche, il faut s'engager, il faut être actif. Et je crois que ça se fait tous les matins, effectivement.
Robert Grossman, merci beaucoup. On va passer tout de suite à l'actualité de la semaine. Le conflit au Moyen-Orient. Robert Grossman, alors c'est une actualité brûlante. Vous avez écrit un communiqué de presse qui est paru jeudi dernier dans la presse locale dans les DNA. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Votre ressenti tout de suite, après j'aurai d'autres questions à vous poser, mais là tout de suite, quel est votre ressenti ?
Écoutez, c'est un épouvantable drame qui ne me laisse pas en paix avec moi-même. Je ne cesse d'y penser quotidiennement, je dirais même toutes les heures. Je pense au drame qui se déroule, à ceux qui sont tués, aux violences, à la guerre qui est insupportable. Et je souhaite, j'allais dire, je prie pour que le cessez-le-feu intervienne le plus vite possible. C'est une guerre qui se déroule loin de chez nous, mais qui a forcément des répercussions importantes chez nous.
Alors justement, il y a eu une manifestation qui s'est déroulée devant le Parlement européen, une manifestation qu'on a qualifiée de pro-israélienne, mais je crois que c'est à tort qu'on l'a qualifiée de pro-israélienne, et une manifestation pro-palestinienne. Et on a, pour ceux qui étaient présents, ressenti très clairement une absence de grands élus politiques. Comment vous expliquez ou vous justifiez qu'aucun des élus n'ait été présent, si ce n'est un ou deux, mais alors très discret et pas très représentatif ?
Si vous permettez, Axel, il faut situer cette manifestation qui était digne et qui était sans doute nécessaire dans le contexte actuel et dans le paysage actuel à Strasbourg. Ça n'est pas une manifestation spontanée. Je crois que cette manifestation, que j'ai suivie de loin, je le reconnais, vient à la suite d'un certain nombre d'autres manifestations. Et il y a eu à Strasbourg des mobilisations en faveur de la Palestine, mobilisations qui étaient elles aussi respectables, dignes et peut-être nécessaires. Mais il y a eu à côté de cela des manifestations qui étaient plutôt haineuses, fanatiques, violentes. Et la manifestation, entre guillemets, pour la paix de la part des amis d'Israël était nécessaire. Comme sont nécessaires celles qui sont pacifiques. Je condamne avec la dernière énergie les appels à la haine, les images que j'ai vues de drapeaux israéliens avec croix gammée qui étaient brûlés. C'est intolérable, c'est inadmissible dans notre ville et dans notre République. Et ceci m'amène, si vous permettez, Axel, à évoquer la République. Je me fatigue d'ailleurs, en m'écoutant moi-même, ressasser comme une incantation l'appel à la République, mais le président de la République lui-même vient de le faire par un communiqué assez fort dans lequel il a condamné les excès. Et je voudrais dire que nous n'avons pas à importer en France le conflit qui se déroule au Moyen-Orient. C'est une guerre qui est loin de chez nous. Nous n'avons pas à faire la guerre chez nous. Que chacun ressente le drame à sa manière, avec sa sensibilité, c'est évident, c'est une chose qui est logique. Mais qu'il y ait des affrontements verbaux, des appels à la haine, qu'il y ait des exacerbations de passion, qu'on ait vu à la fin d'une manifestation des jeunes aller casser des vitrines, c'est intolérable. Et là, je m'étonne en effet qu'il n'y ait pas eu de voix de grands élus. Je veux dire, le maire de Strasbourg lui-même, le président de la communauté urbaine lui-même, les parlementaires, les sénateurs, les députés qui ont été élus par le peuple pour évoquer un certain nombre d'idées et de principes pour être fidèles à des valeurs, que personne ne se soit manifesté fortement pour s'élever contre ces manifestations d'excès. Quand nous passons en ce moment place Kléber, Il y a une sonorisation de manifestants tellement violente, tellement forte, qu'on se sent très mal à l'aise. Et je pense que les Strasbourgeois n'adhèrent pas à cela, n'aiment pas ce type de manifestation. Et même s'il n'y a que 20, 30 ou 50 personnes agglutinées autour de ce leader dont je ne veux pas prononcer le mot aujourd'hui, ça n'est pas admissible. Et j'aurais aimé que le maire de Strasbourg ou le préfet fassent interdire ces rassemblements qui ne riment à rien, sinon à créer un climat de troubles, de violence et peut-être de désespoir aussi.
Alors on a interrogé effectivement les membres du conseil municipal aujourd'hui pour savoir pourquoi ils n'avaient pas interdit ces réunions et ces manifestations extrémistes. Et certains disaient qu'il ne s'agissait pas de rajouter de l'huile sur le feu. Alors est-ce que vous comprenez cette expression « rajouter de l'huile sur le feu » Alors du coup on laisse faire.
Si cette expression a été prononcée telle que vous l'évoquez, elle est grave, parce que ça veut dire qu'il y a le feu. Et rajouter de l'huile sur le feu, ça veut dire qu'on est incapable de juguler ou d'éteindre l'incendie. C'est assez grave de la part d'élus responsables ou de hauts fonctionnaires en charge de la sécurité et de la paix dans notre République. Je dirais même franchement que c'est assez inadmissible. Car au fond, cette espèce d'indifférence, cette espèce de silence de la part de ceux qui ont de hautes responsabilités pourrait conduire à des excès beaucoup plus violents. Si on a peur de ce feu-là et si on ne veut pas en rajouter, mais comment va-t-on suivre l'évolution et la montée en puissance de ces expressions intolérables dans notre République ? Je ne peux pas adhérer à cela.
Alors pour info et pour mémoire, puisque c'est la guerre des vidéos en ce moment sur Internet, on a eu l'occasion de voir des vidéos de M. Mohamed Latrèche, qui est donc le président du Parti des musulmans de France, qui est en tête de ligne sur pas mal de manifestations. Encore une fois, il ne représente pas la généralité des musulmans de Strasbourg, et heureusement, en tout état de cause, il a quand même tenu des propos en disant, et en accusant directement la communauté juive de Strasbourg, en disant que la communauté juive de Strasbourg envoyait ses enfants en Israël pour tuer des Palestiniens, je cite, et que ces enfants, quand ils revenaient à Strasbourg, devenaient avocats, juges ou médecins. De mémoire, à part dans la bouche d'Hitler, on n'a jamais entendu ce genre de propos depuis. Est-ce que vous trouvez normal qu'avec ce type de propos qu'il a tenu plusieurs fois, la mairie ou la représentation des élus de Strasbourg n'ait pas mené carrément une action en justice pour incitation à la haine raciale, à la violence? Est-ce normal ?
Oui, je ne peux que rejoindre complètement vos propos et votre suggestion. ça mériterait une action en justice pour appel à la haine et à la violence. Et ces propos sont totalement intolérables. Nous avons, la malchance d'avoir M. Latrèche à Strasbourg. Je rappelle qu'il est le président du Parti des musulmans de France qui prétend s'exprimer dans toute la France. D'ailleurs, je crois savoir qu'il va à Paris manifester. Et c'est quelqu'un qui est en recherche de notoriété politique plus grande, puisqu'il a été candidat à un certain nombre d'élections récentes. Son comportement n'est pas admissible. Lorsqu'il a été présent à une manifestation de jeunes, on dit des lycéens, mais il y avait aussi des jeunes qui n'étaient pas des lycéens, et je n'ai pas peur de dire que certains de ces jeunes sont des casseurs et viennent dans le but de casser et non pas pour manifester pour un idéal. Il a eu des propos tels que les gens se sont enflammés, qu'on les a chauffés à blanc et qu'après ils sont allés casser en ville au central des vitrines de magasins et de restaurants. C'est, je le répète, quelque chose contre... ce sont des agissements contre lesquels nos grands élus devraient s'élever avec des actes plus qu'avec des propos ou des silences, ce qui est plus grave. Mais je voudrais, Axel, dire quelque chose qui me tient très à cœur. Je ne souhaiterais pas que l'on fasse l'amalgame entre le comportement de cet extrémiste et des fanatiques qui l'entourent avec toute la communauté musulmane à Strasbourg. Je suis convaincu, parce que je le sais, que l'immense majorité des musulmans sont des gens pacifiques, veulent vivre en paix et tranquillement dans notre pays et dans notre République. D'ailleurs, il faut saluer la réunion qui a eu lieu entre les différentes religions, dont les juifs avec leur président, les musulmans, les catholiques et les protestants, pour lancer un appel au respect mutuel et réciproque des communautés. Mais entre l'extrémisme qui existe dans chaque catégorie de citoyens et la grande masse des musulmans, il faut faire très attention de ne pas non plus participer à ces passions exacerbées.
Vous avez tout à l'heure parlé, je vous remercie de ces propos, vous avez tout à l'heure parlé de l'absence de voix de grands élus qui ont condamné tout extrémisme de tous bords. Mais il y a eu quand même M. Riss avec les quatre représentants principaux des religions de Strasbourg qui a fait un communiqué dans les DNA avec un long texte rappelant au calme, etc. Est-ce que vous trouvez cela suffisant? Est-ce que pour vous ce n'est pas quand même une prise de position?
Non, je crois que c'est important ce qu'a fait Roland Riss, maire de Strasbourg. Et je crois que c'est bien qu'il ait réuni autour de lui, comme nous l'avions fait en son temps avec Mme Keller, les représentants des différents cultes et des différentes religions. Et ceci a été un élément très important. Mais voyez-vous, quelques jours après, à la suite des tags ou du cocktail Molotov lancé contre un lieu de culte israélite à Schiltigheim, M. Bigot a fait un communiqué. Et ce communiqué nous a été envoyé, et il disait ceci, il rappelait la réunion qui a eu lieu, je cite, « autour de M. Riss ». Très bien, mais moi c'est M. Riss que j'aimerais entendre. Ce n'est pas ce qui se passe autour de lui, c'est sa voix de maire de Strasbourg que j'aimerais entendre pour condamner avec une fermeté exemplaire les agissements que nous condamnons en ce moment. Et c'est un silence qui est pesant et qui n'est pas très admissible. Je vais être très audacieux en disant que je crois que si j'étais aujourd'hui en charge de responsabilité, président de la communauté urbaine ou ville de Strasbourg, je ferais interdire les manifestations place Clé, qui ne doit pas être une place de manifestation générale, ça doit être une place de convivialité, et particulièrement ces rencontres reconduites quotidiennement avec des mégaphones qui hurlent à 800-900 mètres à la ronde, c'est quelque chose qui n'est pas admissible, d'autant plus que les propos sont des propos qui concernent une guerre étrangère et qui ne concernent pas les concitoyens strasbourgeois. Et là, je reviens, si vous le permettez, avec cette idée à laquelle nous tenons, qui est que si chacun éprouve des vraies douleurs, c'est mon cas, c'est le cas, je le comprends, de tous mes amis juifs et de mes amis musulmans par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, nous n'avons pas, nous, à nous faire la guerre entre nous ici.
Vous avez d'ailleurs, concernant ce thème qui vous tient vraiment à cœur, vous avez créé un groupe sur Facebook Vous êtes très à la mode, Robert Grossman, puisque vous êtes sur Facebook et c'est bien vous qui répondez aux mails et aux appels et aux questions qu'on peut vous poser. Donc, je fais appel à tout le monde. Voilà, Monsieur Robert Grossman est bien sur Facebook et c'est bien lui. Vous avez créé un groupe qui s'appelle La Paix Vite et Maintenant avec une jeune femme qui s'appelle Jamila Azeroual. Et ce groupe-là, effectivement, vous l'avez créé pour appeler au calme, pour dire que ce qui se passe en Palestine, c'est une catastrophe humanitaire. Il faut oser le dire aussi. Il faut oser dire que si d'un côté, effectivement, on estime qu'Israël a le droit de se défendre, de l'autre, il faut condamner ce qui se passe en ce moment parce que c'est un drame humanitaire catastrophique. Après, effectivement, le dialogue, ce qui se passe, le conflit israélo-arabe est un dialogue de sourds entre juifs et musulmans du monde entier, mais ça ne doit pas rentrer sur le territoire de France ou qui doit rester ouvert au dialogue. Est-ce que c'est un petit peu ça, le message que vous voulez véhiculer à travers ce groupe, La Paix Vite et Maintenant?
Oui, Axel. Alors, je tiens à préciser, puisqu'on ne l'a pas encore dit formellement, que le conflit concerne l'État d'Israël et le Hamas. Et c'est le Hamas qui s'est comporté de la manière dont il s'est comporté dans la bande de Gaza d'abord, en ayant cette guerre interne avec le Fatah, les roquettes et les boulets qui venaient tous les jours sur Israël. Au fond, c'est une agression permanente qu'Israël a subie. Il y a une riposte d'Israël qui est extrêmement violente. Et si vous permettez, je vais prendre mes risques en disant qu'elle me semble parfois disproportionnée, puisque des populations civiles sont touchées, sont atteintes, mais je comprends la volonté d'Israël d'anéantir le Hamas en tant que tel, en tant que force guerrière. Mais ce que nous souhaitons, c'est que les armes se taisent. Dans ce groupe sur Facebook, et merci de l'avoir évoqué, nous sommes en quelques jours 1600 à l'heure actuelle. Je souhaiterais que nous soyons encore infiniment plus et que nous n'ayons qu'un seul message à faire passer, que les armes se taisent et puis qu'il y ait une paix définitive, durable, permanente entre Israël et les Palestiniens. Et je crois qu'avec une volonté unanime de tous ceux qui veulent militer pour cela, nous pouvons y arriver. Sur ce plan, on a le droit d'être idéaliste. Et j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui rejoigne ce message simple, que les armes se taisent et qu'on installe une paix durable dans cette partie du monde.
Alors apparemment, le porte-parole du Hamas a été interrogé aujourd'hui et a dit que le Hamas était éventuellement ouvert à un dialogue visant à une trêve, justement, si certaines conditions étaient respectées, notamment la levée du blocus, l'accès de camions humanitaires. Mais je rappelle quand même pour information qu'il y a des couloirs humanitaires qui sont quand même mis en place depuis quelques jours maintenant. Comment est-ce que vous voyez l'évolution dans le contexte actuel, sachant qu'en plus, il y a un vrai espoir de trêve et d'un cessez-le-feu d'une dizaine de jours à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire jeudi. Voilà. Est-ce que c'est enfin une ouverture vers la paix? Est-ce que vous pensez que c'est encore quelque chose qui va être provisoire?
Alors, je crois qu'il faut rappeler que Nicolas Sarkozy a été l'un des hommes d'État les plus engagés, qu'il est allé sur le terrain et qu'il a rencontré tous les grands responsables de cette partie du monde et qu'il a semé. Et je pense que ces graines sont en train de germer, de produire des fruits. Et il faut rendre aussi hommage à l'Égypte, qui, je crois, joue un rôle important d'intermédiaire et de médiateur. Et je forme vraiment le vœu que ce processus aboutisse. Et j'ai aussi une autre raison qui me permet d'être optimiste, mais avec beaucoup, j'allais dire, trop tard. C'est l'élection, c'est la mise en place, c'est l'investiture de Obama. Et si je ne me trompe pas, il aurait dit il y a quelques jours qu'il ne souhaite pas que son investiture ait lieu dans le fracas des armes. Il veut que les armes se taisent au moment de son investiture. Je pense qu'il aurait pu agir un peu plus tôt, mais tant mieux si c'est un facteur qui peut contribuer à installer une paix durable. Et il faut sur ce plan aussi que toute la confiance que nous avons investie en Obama, avec toutes nos diversités, puisse être réalisée et que Obama fasse ce qu'il faut au nom des États-Unis et de l'ONU pour que la paix soit définitive dans cette partie du monde. Ça prendra du temps, mais on y arrivera.
Alors justement, il y a en ce moment sur Internet, vous qui êtes sur Facebook, il y a une guerre des images. Alors est-ce que c'est un nouveau type de conflit? C'est quand même une des premières fois où on voit à ce point des vidéos qui sont envoyées à droite, à gauche, de tous bords. Alors là, qui viendrait effectivement de Palestiniens du Hamas, puis d'autres qui viendraient d'Israël, pour essayer de voir à qui serait le plus barbare des deux. Est-ce que vous trouvez que c'est sain, cet échange de vidéos comme ça, à savoir qui est-ce qui aura le dernier mot?
C'est pas sain du tout. Mais alors, je dirais que là, ça fait partie de ce monde virtuel dans lequel nous évoluons et dans lequel nous essayons d'exister. J'essaye du moins de le faire avec Message pour la paix sur Facebook. Et je vois ces vidéos, je les ai vues, d'un côté comme de l'autre. Ce sont des images épouvantables qui ont pour but de provoquer de l'émotion, de la passion, et peut-être de faire en sorte que cette passion se mobilise de manière négative. Je veux dire qu'elle pousse. J'allais dire qu'elle pousse au crime, voilà. Donc, ça n'est certainement pas une bonne chose. Mais je vais vous dire pire, Axel, et je le dis ici à Radio Judaïka, savez-vous qu'il y a un groupe qui existe sur Facebook qui est pour que Hitler revienne, et je ne dis pas la suite, c'est assez grave, et heureusement, deux autres groupes qui ont demandé l'interdiction de engagement scandaleux. Et pour notre plus grand bonheur, on peut voir que ces deux groupes, en quelques semaines, ont rassemblé des centaines de milliers de Facebookers qui sont contre cela. Mais que cela puisse exister, qu'il y ait des gens aujourd'hui qui puissent se dire « il faut que Hitler revienne », c'est que le monde va très mal et qu'on n'est jamais tranquille et la démocratie se conquiert tous les matins et la paix aussi se forge tous les matins. J'aime bien le répéter, mais je crois que c'est vrai. Il faut qu'on se lève tous les matins avec l'idée de dire « je veux travailler pour la démocratie, je veux travailler pour la paix, je veux travailler pour la fraternité entre les hommes ».
Eh bien écoutez Robert Grossman, moi je vous propose de reprendre ce sujet tout de suite après une petite pause musicale. On va se détendre un petit peu et puis on a encore 2-3 questions sur le conflit israélo-arabe, en tous les cas sur sa non-importation en France. Voilà, je reviens vers vous juste après ça.
Oh, 'cause I'm only here for a while.
Robert Grossman, on est revenu de façon très abrupte. Alors, effectivement, on parlait de Facebook à l'instant et puis l'enregistrement recommence. J'aimerais revenir encore un petit peu juste sur le conflit israélo-arabe, en tous les cas sur le fait que ce soit malgré tout importé en France. Moi, j'ai une question. On a récemment entendu certains politiques quand même qui commencent à prendre un petit peu position. Ils se réveillent gentiment, de façon très délicate. Mais il y a une grande absente quand même sur la scène politique strasbourgeoise. On se demande où est Madame Keller. Quand même, c'est l'ancien maire de Strasbourg, vous la connaissiez bien, vous faisiez le tandem avec elle. On n'a absolument aucun écho de ce qu'elle pense sur ce qui se passe en ce moment à Strasbourg, ni sur les voitures brûlées, ni sur ce qui se passe avec ses insultes et ses actes antisémites. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie en vacances?
Je suis très mal placé pour vous dire où elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, parce que depuis les élections, nous parlons ce qu'il faut pour que l'opposition soit bien structurée néanmoins. Mais je ne peux pas vous dire ce que fait ou ce que pense Mme Keller sur ce plan. La connaissant, je suis sûr qu'elle a des vrais sentiments humanitaires au fond de son cœur, j'en suis sûr. Mais effectivement, sa voix manque peut-être. Voilà.
En vrai, Robert Grossman, est-ce que vous ne trouvez pas ça insupportable et inadmissible pour vous qui avez travaillé avec elle aussi longtemps, qu'elle soit si absente de la scène politique aujourd'hui?
Écoutez, est-ce que vous permettez que j'essaie de traiter cette question avec délicatesse et de dire que beaucoup d'élus, tous les élus, dont Mme Keller, mais je veux dire aussi Roland Ries, Robert Herman, d'autres élus de quartiers strasbourgeois bien identifiés, ne se manifestent pas, et j'ai très peur que ce soit une espèce de syndrome de l'élu qui cherche à soigner tous ses électeurs et qui fait de la démagogie par le silence, et qui, au lieu de prendre des positions, d'être fidèle à des valeurs, d'exprimer des convictions, se tait pour ne déranger personne. Vous savez, quand on veut ne déranger personne, le pire peut arriver. Moi, ce qui m'insupporte, c'est qu'on n'entend que la voix de l'attrèche. Voilà. Et que face à lui, la démocratie et la République ne s'expriment pas. Et la République est incarnée par des élus et des grands élus. Et tout cela devrait se mobiliser. Mon appel, enfin mon constat d'absence de voix d'élus aurait voulu les inciter à se réunir entre eux, tous, toutes sensibilités confondues, députés, sénateurs, présidents du Conseil général, du Conseil régional, maire de Strasbourg, pour lancer un appel en commun au nom de la République. Peut-être estime-t-il que c'est pas...
Est-ce que c'est ce que vous auriez fait?
Ben évidemment. Vous savez, j'ai écrit il y a 7 ans un livre qui s'appelle « La République minoritaire », dans laquelle je faisais part de toutes mes inquiétudes sur le fait que le communautarisme ne prenne le dessus sur l'esprit républicain, c'est-à-dire sur le respect de chaque citoyen par rapport à tous les autres, et sur le vivre ensemble, et sur le fait aussi qu'il ne faut pas faire de procès d'intention identitaire. Chacun doit être respecté pour ce qu'il est, et aujourd'hui, nous filons un mauvais coton sur ce plan, et ceux qui devraient s'exprimer et incarner cette volonté du vivre ensemble, ce sont nos grands élus, et je suis infiniment triste de voir ce grand silence. J'espère qu'ils se réveilleront.
Avant qu'ils se réveillent, justement, on trouve qu'ils ont été très endormis quand il s'est passé ce qui s'est passé avec l'adjoint au maire Éric Alcoubi, qui a été plus ou moins violenté verbalement, en tous les cas embêté par certains membres d'une association. Alors apparemment, le président de cette association, qui est l'association Ciel, a démenti les faits en disant que les jeunes qui ont interpellé M. Alcoubi n'étaient pas ou ne faisaient pas partie de cette association. Il y a querelle à ce sujet-là. En tous les cas, il a été de façon virulente, un petit peu comme ça, interpellé sur ses origines juives également. D'ailleurs, maintenant, il est systématiquement accompagné de deux gardes du corps ou de sécurité. Est-ce que vous trouvez normal le silence de la municipalité par rapport à ce qui lui est arrivé?
Je suis embarrassé pour vous répondre parce que je trouve que M. Alcoubi a été bien imprudent. Je vais y revenir. Mais je dois dire aussi que le fait de se promener avec deux flics à côté de lui est quelque chose de pittoresque et qui est curieux. Est-ce que c'est aussi dramatique que ça? Est-ce que vraiment sa vie est menacée? Je peux vous dire qu'il a été imprudent parce que je connais bien ce quartier et je connais bien ses associations, et nous avions une adjointe extrêmement active, musulmane, Jemila Azrou, qui a traité le problème de ces lieux de rencontres, de réunions, de cultes que réclamaient les associations musulmanes. En deux mots, il y a deux associations qui ne sont pas d'accord entre elles et qui ne se supportent pas bien. Et lorsqu'au début nous allions à l'Elzo, puisque c'est de ce quartier qu'il s'agit, nous étions agressés, non pas seulement verbalement, mais des bouteilles et des canettes de bière nous étaient lancées, des œufs étaient lancés dans notre direction, et il ne faut pas aller dans ce quartier en disant « j'arrive tel le Zorro moral et tout va aller bien parce que je suis là ». Alors qu'il y ait eu des échanges verbaux extrêmement violents, je n'en doute pas. Que Eric El-Koubi ait subi cela, je n'en doute pas non plus. Il fallait simplement qu'il sache où il met les pieds. Ce qu'il y a, hélas, comme facteur aggravant dans la situation, c'est qu'on ait pu proférer à son endroit des injures racistes. Ça, c'est évidemment intolérable. Et ça montre bien que le climat qu'on décrivait est exacerbé et des individus peu recommandables mettent alors là vraiment de l'huile sur le feu au lieu de calmer les esprits. Bon, mais je crois qu'il ne faut pas non plus, avec deux agents de police qui se promènent toute la journée à côté de lui, donner aux gens le sentiment que nous vivons dans un état de vraie guerre civile. Ce n'est pas vrai. Il y a eu effectivement des agressions verbales violentes, mais il faut calmer le climat.
Justement, à propos de calmement, j'aurais envie de terminer par cette phrase, si vous me le permettez, Robert Grossman, du Dalai Lama, qui disait « Le désarmement extérieur commence par le désarmement intérieur. Le seul garant de la paix est en soi. » Je trouve que c'est une jolie phrase. Vous en pensez quoi ?
Je trouve que le mot « joli » ne suffit pas. C'est une belle phrase qui mérite effectivement d'être méditée. Mais il est parfaitement exact que je crois que l'humanité, les hommes, les femmes tels qu'ils sont, sont en permanence en quête de cette paix intérieure qu'ils n'ont sans doute pas. Et c'est aussi un combat en faveur de l'humanisme.
Sur cette jolie fin, on va passer au pour ou contre. Alors effectivement, les questions d'actualité étaient essentiellement tournées autour du conflit israélo-arabe et de son importation en France. Vous nous excuserez, chers auditeurs, effectivement, d'avoir traité que ce sujet-là principalement, mais je pense que c'était important que nous le fassions. En tous les cas, Robert Grossman, si vous êtes d'accord, on passe tout de suite au pour ou contre. Alors, Robert Grossman, pour ou contre Philippe Richert, qui est en campagne pour les régionales?
Pour sa campagne.
Pour sa campagne ou pour sa candidature?
Mais il faut voir ce qui va se passer. Nous sommes dans le flou. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre pour ou contre parce que M. Balladur doit rendre des conclusions sur la configuration de la future région. Et en fonction de la future région, ce sera en 2010 ou en 2011. Et beaucoup de choses peuvent changer en ce circonstance. Je suis un ami de Philippe Richert.
Très bien. D'ailleurs, on va retenir cette phrase-là. Alors, à ce moment-là, c'est parfait. Sachant que Philippe Richert a quand même précisé qu'il était candidat si jamais Adrien Zeller ne se représentait pas, ce qu'on, pour l'instant, on ignore.
C'est le grand mystère. Autant il y a un silence sur le conflit actuel, autant il y a un silence sur les intentions des uns et des autres quant à la région. Adrien devrait quand même nous renseigner sur ses intentions profondes.
Et on va aller lui demander. Ce sera peut-être le thème de la prochaine émission. Pour ou contre, la seconde chance offerte à Raphaël Nizan, qui, je précise, et maire de Schiltigheim, en tout cas pour l'instant.
Ça m'embêterait. J'aime beaucoup Raphaël Nizan. C'est presque un ami et nous avons des relations depuis toujours. Mais un conseiller général qui s'appelle Bernard Ingwiller a eu son élection invalidée pour des raisons presque similaires et lui n'a pas de seconde chance. Donc il faut qu'il y ait une égalité de traitement.
Je rappelle que Bernard Ingwiller était conseiller général du canton d'Orfelden, si je ne me trompe pas, et effectivement son élection a été invalidée.
Quelle culture géopolitique.
Je prépare bien mon émission, voyons. Pour ou contre, la fin de Prison Break? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous savez ce que c'est Prison Break? Allez, soyez honnête. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps pour regarder la télévision, donc même si vous ne connaissez pas, je pense que vous serez excusé.
Ben écoutez, franchement, je ne connais pas.
Alors, c'est une série américaine très connue où on voit en fait un prisonnier qui cherche à s'évader. Alors, à chaque fois, c'est une série de X épisodes où il s'évade systématiquement de l'endroit où il est et il n'y aura pas de cinquième saison. C'est quand même un scoop. Voilà, je voulais vous le livrer aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse.
Oh, je vous en remercie. Je suis touché. Mais vous savez, je ne peux pas être à la fois sur Facebook et travailler et en même temps regarder Prison Break.
Non, ça, c'est sûr. Je vous l'accorde. Pour ou contre le blocus de la gare Saint-Lazare à Paris?
Oh, contre. C'est un scandale. vraiment scandaleux. Et alors là, qu'on puisse commettre une prise en otage, le mot ne leur plaît pas aux syndicats, mais c'est une prise en otage de milliers et de milliers de voyageurs qui ont leurs obligations, leur vie privée, leur vie familiale, c'est honteux. Ça devrait être complètement exclu.
Alors Nicolas Sarkozy qui a appelé justement le président de la SNCF à des excuses publiques, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il intervienne lui-même pour ce type d'événement?
Il prend très 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 à cœur sa mission et je crois que rien de ce qui arrive aux Français ne lui est étranger, ne le laisse indifférent. Il intervient, voilà.
Est-ce que vous pensez que quand on a un problème dans sa cuisine, on peut appeler SOS Nicolas Sarkozy, il vient aussi vous régler votre problème ou est-ce qu'il se ménage des moments plus importants?
Je pense qu'il se ménage beaucoup de moments importants et je le lui souhaite dans sa vie privée, dans sa vie de couple, mais prendre en otage des milliers de voyageurs dans un établissement public comme la SNCF, c'est pas admissible.
Pour ou contre la gratuité dans les 50 musées nationaux pour les jeunes de moins de 25 ans et les enseignants? C'est une nouvelle mesure.
Nettement pour, mais je crois que ça pose un problème de budget et que le ministère de la Culture devra trouver des sous. Mais je suis pour même la gratuité des musées en général, mais évidemment, ça a un coût lourd.
Pour ou contre les réformes du permis de conduire, plus rapide, plus sûr, moins cher, est-ce que c'est forcément plus dangereux aussi?
Je ne crois pas que ce soit plus dangereux si les formalités sont bien exécutées et si la formation est bien faite. Je suis plutôt pour.
Pour ou contre François Loos comme candidat au régional?
Oh, ça, c'est vache. Hein. tout à l'heure, c'était Philippe Richert, maintenant, c'est François Loos. Je vais faire une réponse de Gascon ou de Normand. Il y a des élections internes qui sont prévues au sein de l'UMP. Comme tous les deux sont à l'UMP, les militants de l'UMP viendront les départager.
Ou a priori, il y en a un qui ferait outre, même s'il n'était pas investi par l'UMP.
Possible, et ce serait donc sans l'investiture UMP, mais pour l'instant, tous les deux appartiennent à l'UMP. Et voilà, et je crois que c'est quand même au mouvement de déterminer sa politique, qu'ensuite un candidat se présente de manière libre et tout à fait son droit. Et du reconnaître à les siens.
On reconnaît là votre talent pour détourner votre réponse de la question. Je vous remercie.
Ne dites pas que je fais langue de bois.
Non, pas du tout. Bon. Ah non, j'espère pas. Non, au contraire. Pour ou contre le droit d'amendement au Parlement?
Ah oui, bien sûr. Je crois que ça doit être une des prérogatives des parlementaires de recourir à des amendements.
Mais vous connaissez la polémique en ce moment. Apparemment, on serait en train de revoir ce droit d'amendement pour le limiter dans le temps, parce que justement, il y a des débordements insupportables où on commence à parler de Titi et Grosminet pendant 3 heures.
Oui, mais Axel, je crois que le droit d'amendement n'est pas atteint. C'est-à-dire que les parlementaires peuvent toucher à un texte et le modifier. C'est ça l'amendement. En revanche, faire de l'obstruction, comme le font les socialistes, et comme cela se pratiquait au Congrès aux États-Unis où les gens se mettaient à lire la Bible de A à Z en utilisant un temps de parole indéfini, c'est pas non plus acceptable. Donc il faut limiter le temps de parole de manière raisonnable. Savez-vous qu'au Parlement européen, les députés n'ont droit qu'à 2 minutes pour une intervention? 2 minutes. Alors qu'on limite un peu de manière raisonnable au Parlement français, ce serait une bonne chose.
Pour ou contre la présence policière dans les lycées?
Non. Pas en uniforme, mais qu'il y ait une sécurité plus grande en faveur des enseignants, oui. Alors, le mot policier est toujours chargé de sens. Je crois qu'il faut effectivement garantir la sécurité de tous les enseignants qui ne va pas de soi aujourd'hui.
Pour ou contre Jacques Attali au gouvernement? Il en était question. Alors au moment en tout cas où j'enregistre cette émission avec vous, il en était question. Je ne sais pas si ce sera le cas lundi quand vous écouterez cette émission, chers auditeurs, mais en tous les cas...
Le gouvernement vient d'être modifié aujourd'hui. Il paraît qu'il y a encore des postes en attente. Mais non, Jacques Attali est un très grand intellectuel. Il doit continuer à réfléchir, à penser, à innover, à nous tracer des voies pour l'avenir, mais pas forcément à gérer.
Alors justement, est-ce que vous êtes pour ou contre Brice Hortefeux comme ministre des Affaires sociales, puisque le remaniement est tombé?
Oui, je le connais bien depuis très longtemps. C'est un homme à qui on a fait jouer un rôle qui était plein d'ingratitude et qui attirait les foudres de tout ce qu'on peut appeler les communautés humanitaires, humanitaristes. Brice est quelqu'un qui a un grand cœur et qui, je crois, se refera une santé au ministère des Affaires sociales. Il sait aussi prendre ses responsabilités, être cassant. Mais je crois qu'il a bien fait son travail et c'est un travail indispensable au ministère qu'il vient de quitter.
Et pour ou contre Xavier Bertrand qui quitte le gouvernement pour prendre la tête de l'UMP?
Oui, Oui, on va voir ce que ça va donner. Oui. L'UMP a besoin d'être redynamisé, c'est certain.
J'aime beaucoup quand vous partez sur un oui, ce qui vous permet de réfléchir un petit peu à comment vous élevez votre réponse.
Avec vous, je suis un tout petit peu sceptique, un tout petit peu seulement.
Je vous remercie de votre franchise. On va tout de suite passer, cher Robert Grossman, à la question qui tue. Robert Grossman, en plus, je dois vous dire que c'est vrai, vous en avez déjà eu une de questions qui tue et vous y aviez répondu avec toute la franchise qu'on vous reconnaît. Pour ceux qui n'avaient pas écouté cette émission, cette première question qui tue, c'était grande gueule ou pas grande gueule. Vous avez eu le courage de dire oui, peut-être un petit peu. Là, cette question qui tue est différente. Robert Grossman, quel est votre avenir politique aujourd'hui?
On dit que tout ce qui ne tue pas fortifie. On dit aussi qu'un homme politique n'est jamais mort, politiquement j'entends, et je me sens tellement plein d'énergie, de vigueur, d'imagination, de dynamisme, que je ne me vois pas prendre une retraite politique. Mais je m'assigne une mission qui est de révéler de jeunes talents pour préparer l'avenir municipal notamment, et je compte que d'ici 2-3 ans, j'ai autour de moi suffisamment Strasbourgeois qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui pourront effectivement jouer un grand rôle à l'avenir. Je crois que Strasbourg a besoin de 109 et si j'ai un objectif, c'est bien de révéler ces nouveaux talents.
Robert Grossman, on va tout de suite passer à l'interview décalée. On vous l'a déjà posé, on a déjà fait cette interview décalée ensemble, mais alors je me risque à vous la reposer parce que, étant donné l'actualité ce qui se passe en ce moment dans le monde, je suis persuadée que vos réponses seront un petit peu différentes et c'est très intéressant de pouvoir suivre cette interview décalée avec l'actualité de la semaine justement. Robert Grossman, quel est votre mot préféré?
En ce moment, fraternité.
Le mot que vous détestez le plus?
Intolérance, haine.
La drogue que vous préférez?
L'amour.
Le son, le bruit que vous aimez entendre?
Celui de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
Le son, le bruit que vous détestez entendre?
Les hurlements, place Kléber.
Votre juron, votre gros mot ou blasphème préféré?
Non, c'est trop violent pour le dire ici.
Oh, si, je vous en supplie, c'est là que c'est drôle.
Bordel de merde.
L'homme ou la femme pour illustrer un nouveau billet de banque.
Non, mais ça, c'est une question terrifiante.
Question piège.
Oui.
On y revient après, si vous voulez.
Je ne peux pas me tromper là, donc je ne peux pas avoir une réponse spontanée et immédiate. C'est trop important sur les billets de banque.
Oui, justement. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai eues dans cet entretien qui m'ont dit « Sœur Emmanuelle », vous seriez étonnée.
Oui.
En tous les cas, on y reviendra si vous voulez bien. Le métier que vous n'auriez pas pu faire, que vous n'auriez pas aimé faire, ce qui n'est pas la même chose, je vous l'accorde.
Inspecteur du fisc.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
Un chêne.
C'est une jolie réponse. Et si Dieu existe, Robert Grossman, qu'est-ce que vous aimeriez après votre mort qu'il vous dise aujourd'hui?
Retourne de là d'où tu viens et refais ton itinéraire de manière plus sage.
Oh, ça c'est une jolie réponse, surtout pour ceux qui auront écouté la première interview de vous. En tous les cas, Robert Grossman, deux dernières questions, après je vous libère. Est-ce que vous m'avez menti même un tout petit peu dans le cadre de cet entretien?
Absolument pas. Je ne suis peut-être pas allé au bout de tout ce que je pourrais vous dire à certaines questions, mais je n'ai absolument pas menti.
Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit?
Non, sur, par exemple, les élections régionales, me prononcer, vous me posez la question de choisir entre Loos et Richert, je suis bien embarrassé. Voilà, mais pour tout le reste, je suis allé, je crois, assez loin dans la condamnation de cette menace contre la République que nous vivons et que mes collègues traitent par l'indifférence.
En tous les cas, Robert Grossman, je crois savoir que vous êtes en ce moment dans l'écriture d'un livre très particulier qui viendra bientôt orner les coins des librairies les plus connues de Strasbourg. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, d'ici là. Hein, il devrait arriver peut-être en février-mars. C'est un livre que vous écrivez en collaboration avec Éric Vial, donc ce sera très intéressant d'y revenir, surtout pour Radio Judaïca. Chers amis, Robert Grossman était mon invité encore une fois pour cet entretien particulier. Merci à vous de votre franchise, d'avoir joué le jeu encore une fois, surtout vu l'actualité de la semaine. Chers amis, je vous retrouve en tous les cas tous les lundis de 9h à 10h et les mardis de 17h à 18h. Jusqu'ici, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le site internet de Judaïca, www.judaïcastrasbourg.fr. Et d'ici là, excellente semaine à vous. Merci.